Eh bien, bonjour à tous.
Nous avons chanté, nous avons loué le Seigneur, et maintenant nous allons prier. Seigneur Jésus, je te prie que tu bénisses tout ce qui va être dit ici, et que ceux qui verront la vidéo, ceux qui entendront le message enregistré sur le net, puissent être autant bénis que nous ici. Merci Jésus de nous conduire dans toute la vérité. Seigneur, nous croyons que tu nous conduis dans toute la vérité. Non pas que nous sommes orgueilleux, mais nous t'avons confié nos vies, et nous nous efforçons de vivre selon tes commandements et tes principes. Alors tu bénis cela. Je te remercie, mon Dieu, que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus. Amen.
Amen.
Un jour, dans une école, la maîtresse a dit aux enfants de faire un dessin, mais n'importe quel dessin. Ils avaient le droit de dessiner ce qu'ils voulaient. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que la maîtresse vous demande une chose comme ça? En tout cas, là, cette maîtresse, elle a dit « Dessinez ce que vous voulez ». Et puis, les enfants se sont tous mis à appliquer, à dessiner quelque chose. Et la maîtresse passait dans les rangs pour regarder ce que les enfants dessinaient. Tout à coup, elle est arrivée vers une jeune fille, une gamine, qui lui dit « Qu'est-ce que tu dessines là ?» Et la petite fille lui a dit « Je dessine Dieu ». L'institutrice était un petit peu étonnée. Elle lui dit « Mais personne ne sait à quoi ressemble Dieu ». Et la gamine, sans aucune hésitation, a dit « Eh bien, ils vont le savoir dans une minute ». C'est pas joli, ça? Ça, je trouve ça magnifique. Ça, c'est la foi des enfants. La foi des enfants. Eh bien, voilà une belle assurance. Et ça serait merveilleux que les chrétiens puissent avoir une telle assurance, une telle confiance, une telle simplicité, n'est-ce pas, dans leur cœur, dans leur vie, dans leur comportement. Écoutez-moi bien. Notre Père Céleste veut que nous devenions confiants dans sa connaissance, dans notre connaissance de lui. Il veut cela. On va lire dans Jérémie chapitre 9, versets 25 à 24. Non, c'est plutôt le contraire, c'est 23 à 24, pardon. 9, 23, 24. Et voilà ce qu'il est dit. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais celui qui veut se glorifier, se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Amen.
Okay.
Voilà ce que Dieu veut. Je me glorifie de connaître Dieu, d'avoir cette intelligence qui a été renouvelée par le Saint-Esprit, travaillée par le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je sais, je connais Dieu. Et je vous en parle. Et je vous démontre par la puissance du Saint-Esprit qui est en moi. Et je crois que tout chrétien doit arriver à ce stade de cette connaissance de Dieu, parce que la vie éternelle, c'est ça, c'est de connaître Dieu et son Fils Jésus-Christ, son Fils qu'il a envoyé sur cette terre. Mes frères et sœurs, le moindre des frères, la plus petite et la plus simple des sœurs, peut tout savoir, aussi vite qu'il est possible qu'il ou elle le supporte au sujet de Dieu. Parce que le jour vient, nous dit la Bible, où personne ne dira à son prochain « Connaissez l'Éternel, car tous connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand. » Et ça, on trouve aussi dans Jérémie 31, 34. Mais pour ce temps-ci, nous ne devenons pas conscients de l'Éternel, nous n'avons pas la connaissance de qui est l'Éternel si nous ne faisons pas des efforts personnels. C'est vrai que nos parents, nos pasteurs, les frères et sœurs, tout le monde, n'est-ce pas, tous ces gens-là peuvent nous aider, la lecture de la Bible peut nous aider, tout cela, ça, c'est vrai, mais nous devons devenir autonomes dans notre apprentissage de ce que Dieu dit. Parce que Dieu est ce qu'il dit qu'il est. Pas ce que les pasteurs racontent, forcément. ni ce que les prophètes racontent forcément, ni ce que les frères et sœurs vous disent, ni ce que les songes, les visions, les machins, tout ça. Vous devez être autonome. Savoir vous-même. Dans le monde physique, eh bien, nous apprenons à nous nourrir de façon à entretenir notre corps, à le développer. On est tous là, on en est tous là, hein. Eh bien, c'est de même, nous devons apprendre à nous nourrir spirituellement pour entretenir notre esprit. On ne peut pas ingurgiter n'importe quel élément spirituel et nous sentir bien et déclencher de bonnes choses autour de nous. C'est pas possible. Parce que tout ce qui est spirituel n'est pas forcément bon. Il y a un monde spirituel qui est nocif. Il y a un monde spirituel qui est toxique, je dirais même. Certes, ça peut nous nourrir, ça c'est sûr, mais le problème c'est que nous allons devenir obèses, enflés, la connaissance fait enfler, ou alors tous mes grichons, spirituellement parlant, et puis c'est un déséquilibre. On n'est pas fait pour être des obèses spirituels ou des tout maigrichons spirituels. J'ai toujours trouvé, en parlant de maigrichons ou de gros, hypocrite, parfaitement hypocrite, quand les gens disent « cet homme est costaud ». Non, il n'est pas costaud, il est gros. Hein, c'est vrai, Stéphane a fait partie du monde du bodybuilding, moi j'étais aussi, je m'amusais un peu dans ce monde-là, et il y avait des gens, on entendait des gens qui disaient « ah, lui, c'est un homme fort ». Non, c'est pas un homme fort, c'est un homme gras. C'est très différent. C'est très différent. Il en va de même pour la nourriture spirituelle. Il y a de la malbouffe spirituelle. Il y a une malbouffe spirituelle. Il faut faire attention, vous ne pouvez pas bouffer n'importe quoi. Un jour, je me rappelle toujours, Rachel doit s'en souvenir, Michaud aussi, tous ceux qui ont connu la sœur Camélia, elle était chez une dame, et puis elle lui dit, je fais un drôle de rêve, la dame, elle lui dit, je fais un drôle de rêve depuis quelque temps, et ça se répète tout le temps, j'ai des cravates qui me sortent de la bouche, et je tire, et plus je tire, plus il y a des cravates qui me sortent de la bouche, qu'est-ce que ça veut dire? Camélia lui dit, écoute-moi, ferme ta petite bouche que j'ouvre la mienne. Ces cravates que tu sors, c'est parce que tu manges à tous les râteliers, ma sœur. Elle mangeait à tous les râteliers, c'est-à-dire qu'elle avait une parfaite malbouffe spirituelle. Vous pouvez manger du spirituel McDonald's. Eh oui. Ça existe, ça va vous nourrir, mais c'est déséquilibré. De temps en temps, ça rend service. Ça peut être amusant aussi. Mais c'est pas bon, réellement. J'ai lu un fait qui s'est produit en Floride, j'ai lu ça. Ça s'est passé dans une région qui s'appelle Saint-Augustine. Moi, je connais pas cette région qui s'appelle Saint-Augustine. J'ai déclenché un fou rire là-bas. Il y a des milliers de goélands qui sont en train de mourir de faim. Et vous savez pourquoi ils sont en train de mourir de faim? Parce que pendant des générations, ces goélands avaient appris à dépendre d'un parc d'élevage de crevettes et les goélands, pendant des générations, se nourrissaient des déchets qui provenaient des filets, des choses que les hommes jetaient, qu'ils ne voulaient pas, les crevettes qu'ils ne voulaient pas. Un jour, cette société s'est barrée, ils sont allés ailleurs. Ces éleveurs de crevettes donc ont quitté le secteur, et ce qui s'est passé, c'est que les goélands qui n'avaient jamais appris à pêcher eux-mêmes, eh ben, et aussi qui n'avaient jamais enseigné leurs petits à pêcher eux-mêmes, eh bien tous ces goélands mouraient de faim. Ils mouraient de faim. Alors qu'il y avait une abondance de poissons tout autour d'eux dans l'eau, mais ils ne savaient pas pêcher. Nous ne pouvons pas nous permettre, mes frères et sœurs, de devenir comme ces goélands. Nous ne pouvons pas non plus laisser nos enfants dans la vie en étant dépendants complètement de nous. Il ne faut pas faire ça. Ce n'est pas bon. ou des autres d'ailleurs. C'est pas bon. C'est pas bon quant à leur connaissance de l'évangile qui est un témoignage de Dieu. On ne peut pas laisser nos enfants libres de lire ou de ne pas lire, de chercher ou de ne pas chercher. Il faut les éduquer, il faut leur apprendre à les pêcher les poissons qui sont dans la parole de Dieu, les bonnes choses qui sont dans la parole de Dieu. Il faut se donner de la peine pour ça, vraiment le faire, sérieusement. C'est important. Combien de fois je l'ai dit? Ceux qui se sont attachés à faire ce que j'ai dit, leurs enfants sont sauvés. Les autres, oui ou non? C'est comme ça. Mes frères et sœurs, nous devons être autonomes et nous devenons autonomes dans l'apprentissage de l'évangile, de la bonne nouvelle, et nous savons comment nous nourrir spirituellement et comment nous fortifier dans notre relation avec Dieu quand nous sommes autonomes. L'autonomie spirituelle, c'est un pouvoir. C'est le pouvoir qui nous soutient dans l'Église. Il ne faut pas confondre autonomie et indépendance. C'est le pouvoir, l'autonomie, c'est le pouvoir qui nous maintient dans la communion fraternelle authentique, vraie, pas sentimentale ou intéressée, sainte, authentique, dans une communauté équilibrée, dans une vie d'Église équilibrée. Si les chrétiens ne devaient pas être autonomes, si ça n'était pas la volonté de Dieu, comment est-ce que les gens pourraient savoir si tel serviteur de Dieu est vrai ou faux? Il suffirait qu'un homme prenne la Bible et dise des choses, une femme prenne la Bible et dise « Alors, ah ben, oui, alors on suit. » C'est parce qu'ils ne sont pas autonomes spirituellement que des gens suivent des faux pasteurs, des faux prophètes, des fausses doctrines et toutes sortes de choses complètement stupides et idiotes. Et ça, c'est la majorité. C'est la majorité. Ce peuple, aujourd'hui, manque de connaissances. Ah, vous connaissez des tas de choses, mais pas les choses qui sont importantes pour aujourd'hui, ce que Dieu dit aujourd'hui. Ils ne savent pas quelle est la volonté de Dieu pour aujourd'hui, dans quelle dispensation nous sommes et ce que Dieu attend de ses enfants aujourd'hui. Ils ne savent pas. Si Dieu ou ses serviteurs se dépêchaient vite de répondre à toutes vos questions, et se dépêcher vite de donner des solutions à tous vos problèmes, il ne vous rendrait pas service, il ne ferait que vous affaiblir. Et ne vous fortifierait pas. On parlait vendredi soir de cela, mais pourquoi toutes ces souffrances et toutes ces choses? Il y a des raisons, Dieu sait pourquoi. Ce qu'il veut, c'est que vous deveniez autonome. Bon. Alors, chaque chrétien est heureux de recevoir de l'inspiration en écoutant les prédications, mais nous ne devons pas compter que sur cela pour notre nourriture spirituelle. Nous ne devons pas. C'est pas bien. Chaque membre de la communauté de Jésus-Christ, c'est-à-dire de l'Église, doit connaître les divers témoignages de Dieu qui sont donnés aujourd'hui à l'Église, et il n'y a rien de plus palpitant pour moi, et je pense que si c'est palpitant pour moi, ça devrait l'être pour tous les enfants de Dieu, parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, et si c'est vraiment l'Esprit qui vit en vous, ça doit être, l'Esprit doit être excité d'être aux commandes. Je dis, il n'y a rien de plus palpitant pour moi que de trouver dans les Écritures un trésor de vérité qui avait été caché, qui m'avait été caché, et d'en obtenir la compréhension. Je parlais de vendredi passé, ce qui s'est passé vendredi. C'était vraiment magnifique. Alors qu'on était en train d'étudier ensemble le livre de Mormon, parce que ça, les frères et sœurs qui ne sont pas dans la communauté ne le savent peut-être pas, mais le vendredi soir, il y a une prédication qui est préenregistrée, c'est celle que vous écoutez sur Internet, mais nous, entre nous, dans la communauté, on étudie le livre de Mormon, et on cherche à comprendre, à savoir, nous ne sommes pas des gens sectaires, on veut savoir, on veut comprendre. Les Mormons, c'est du diable! Ah oui, c'est quoi les Mormons? Vous savez quoi des Mormons? Vous avez entendu quoi au sujet des Mormons? Vous en avez rencontré? Est-ce que vous avez lu leur livre? C'est du diable! Mais vous faites que répéter ce que les gens disent. Vous n'êtes pas autonome. C'était extraordinaire. Michou était en train de lire dans le livre de Jean, dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, elle lisait 34-36, je vais vous le lire. Juste pour vous montrer ce qui s'est passé vendredi soir. Jean 10, 34-36. Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, votre Torah, si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu ?» Ce verset, je l'ai lu des centaines de fois. Vous pensez que depuis 1968 que je suis converti, je le connais. Mais, tout à coup, je me suis rendu compte, pendant qu'elle le lisait, que ce que le prophète Joseph Smith dit quand il parle des dieux, ces dieux-là, c'est nous. C'est ce que Jésus est en train de dire. Que la Torah appelle Dieu, D-I-E-U-X, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Wow. Les dieux sont ceux à qui Dieu parle. Les dieux sont ceux à qui Dieu s'est adressé. Verset 35. Dieu appelle les siens, il ne s'adresse pas aux autres, les autres peuvent entendre, mais ils ne comprennent rien, ou ils comprennent tout de travers, et ils suivent n'importe quel berger à la noix de coco. Parce qu'ils ne sont pas les siens, et parce qu'ils n'apprennent pas à être autonomes. Les siens sont ses enfants, et c'est à ses enfants qu'il s'adresse. Et il dit, mes enfants, mes brebis reconnaîtront ma voix. Donc ceux qui reconnaissent sa voix sont appelés des dieux. Pourquoi ? Parce que Dieu se cherche une épouse et il serait contre nature que Dieu épouse autre chose qu'une déesse. Vous me suivez ?
Bien sûr.
La différence, c'est que juste comme dit la Bible, nous mourrons comme les hommes. Mais nous sommes des dieux. Moi, j'étais dans l'exaltation d'avoir cette lumière qui m'est apparue tout d'un coup. Pendant que Michou lisait à haute voix, là, juste assise là, pourtant j'avais lu ça des centaines de fois. Et chaque fois qu'une pépite sort de ce trésor qu'est la parole de Dieu, eh bien, ça me met dans une joie formidable, pas vous ?
Oui.
Bien sûr. Alors, pourquoi s'en priver dans notre intimité avec Dieu ? Pourquoi s'en priver ? Il nous faut sonder les Écritures diligemment, étudier la Bible. C'est un petit peu comme l'apprentissage de la peinture. Si je donne une palette de peinture avec toutes les couleurs et un beau tableau blanc à un bonhomme qui passe dans la rue, il ne va pas me peindre la Joconde comme ça. Voilà pour qu'il y apprenne. Vous pensez pas ? Eh bien, c'est la même chose. Personne n'est artiste spontanément et personne n'est disciple spontanément. Personne n'est autonome spontanément. C'est quelque chose qui s'apprend. C'est le même choix pour ce qui est de l'acquisition de l'autonomie dans l'apprentissage des Saintes Écritures. La même chose que pour apprendre à jouer de la guitare, du piano, ou n'importe quoi. Ça, ça apprend. On doit apprendre à apprendre. D'où le titre de ma prédication. Vous ne pouvez pas découvrir régulièrement des grandes connaissances ou même des petites connaissances si vous n'avez pas appris quelques techniques d'apprentissage. Il y a des techniques. Oh, mais c'est pas spirituel. Eh bien, continuez à être spirituel comme vous l'êtes. Vous êtes content, vous êtes heureux, tout va bien. Tant mieux, bravo. Circulez, il n'y a rien à voir. Moi, je dis qu'il y a des techniques. Et c'est ça que je m'attendais à apprendre dans les écoles bibliques. Ben, on ne les enseigne pas, ces techniques, dans les écoles bibliques. Vous savez, les Écritures contiennent la plénitude de la bonne nouvelle éternelle. C'est une éternité de connaissances qu'on a dans nos mains quand on tient ça. Vous savez, hier soir, je disais à frère Yannick était en train de me piquer ma prédication. On était en train de parler tous les deux, il était en train de me dire ce que je suis en train de vous dire là. C'est marrant, hein? Il nous faut apprendre à utiliser ces connaissances mises à notre disposition. Sinon, on va se décourager. Ça vous est jamais arrivé, vous, d'arriver dans un temps où vous dites « Bon, je vais lire un peu la parole de Dieu. Non, ça, j'ai déjà lu. Non, ça, bon, je vais prendre plutôt dans l'Ancien Testament. Voilà. Non, j'ai déjà lu ça. Voilà, ça, j'ai déjà compris. D'ailleurs, il y a plein de notes. Ça vous est jamais arrivé ? Quand vous en êtes là, c'est qu'il y a un problème. Vous savez, les Écritures contiennent la plénitude de la bonne nouvelle éternelle. C'est un message qui est éternel et on a ça dans nos mains et on ne peut pas l'étudier comme ça en épingle à Joconde. Il nous faut apprendre à utiliser ces connaissances mises à notre disposition de façon régulière, de façon systématique, de façon disciplinée. Sinon, on se décourage. Donc, il nous faut apprendre à apprendre. Est-ce que vous vous êtes jamais posé la question ? Il y a un truc, moi je me suis posé la question. Au sujet des gens, vous savez, l'émission Les Grosses Têtes. Dire, ça y est, Michel, t'es charnel. Ben oui. Comment ils font, ces gens-là, pour être de bonne humeur et faire rigoler toute la France entre 16h et 18h tous les jours ? Ils ont leurs problèmes, ils ont leurs difficultés, ils ont leurs maladies, ils ont leurs bobos, ils ont leurs trahisons, ils ont leurs machins. Ils arrivent et ils sont comme ça. C'est une façon. Ils ont tourné leur esprit dans ce sens-là. Ils ont appris à prendre le dessus. Ce sont des artistes. Je me suis posé la question, comment ça se fait, Osborne, depuis tant d'années, qui prêche toujours le même message, il n'en a pas marre ? Et les prédicateurs qui arrivent devant vous chaque vendredi soir et chaque dimanche matin avec une prédication apportant des connaissances nouvelles, mais comment ils font ? Vous n'avez jamais posé la question ? Moi, je vais vous dire comment ils font. Les prédicateurs extraient les points de doctrine, un, des Écritures, parce qu'il faut toujours que ça soit cohérent avec la sainte doctrine, avec la saine doctrine. Deux, ils formulent des principes directeurs pour leur vie, avec ce qu'ils ont compris, et aussi pour enseigner afin que les autres puissent en bénéficier, et toujours cela à partir des saintes écritures. Ils apprennent à interpréter les symboles. Pour cela, ils ne comptent pas sur le Saint-Esprit qui va leur montrer. Ils regardent ce que les anciens ont déjà découvert. Et ils mettent ça à la lumière des choses révélées aujourd'hui, afin de savoir si c'est vrai, si c'est juste, si c'est correct. Ils apprennent à faire le lien entre ce que disent les Écritures et ce que racontent les prophètes actuels. Ça s'apprend. Et puis ensuite, ils apprennent à devenir des transmetteurs puissants de ce qu'ils ont compris. Ça s'apprend aussi. Vous avez des gens qui ont une connaissance formidable, mais quand ils parlent... Ça, c'est Coluche qui disait ça. J'ai rien compris de ce que tu as dit. Il y a juste un mot que j'ai compris. Collecte. Il faut... On apprend, ça s'apprend. Il y a des techniques, ça s'apprend pour transmettre avec puissance ce qu'on a compris. Et pourquoi ils font ça ? Parce qu'ils sont animés de l'amour pour Dieu et de l'amour pour leurs prochains. Mais l'amour seul ne suffit pas, il faut apprendre. Alors, quand vous lisez la Bible ou le livre de Mormon ou n'importe quel autre témoignage de Jésus-Christ, parce que je suis désolé, moi quand je lis les livres de Billy Graham ou de Catherine Kuhlman ou de Branham ou n'importe qui, c'est toujours un témoignage de qui est Jésus-Christ et de ce que Jésus-Christ veut. Alors je ne dis pas que tout ce qu'Osborne a écrit c'est « Ainsi dit le Seigneur » autant que la Bible, mais il y a des pépites là-dedans, il y en a partout. Eh bien, quand je lis ces choses-là, il faut d'abord se poser ces questions tout en disant « Quel est le point de doctrine enseigné dans ces versets et qu'est-ce que j'apprends au sujet de ce point de doctrine ?» La doctrine étant composée de textes qui parlent de la même chose pour qu'on arrive à une compréhension globale de la chose dont on parle. Par exemple, si je veux connaître la doctrine du baptême d'eau par immersion, eh bien je prends tous les textes qui parlent du baptême et puis je peux ainsi avoir une idée et connaître la véritable doctrine à ce sujet-là. Où, ensuite je pose la question, où et quand ai-je vu ce principe dans l'évangile appliqué de manière efficace? Est-ce que ce que je lis là, je vois dans la Bible des gens qui l'ont appliqué de manière efficace? Je cherche et je trouve. Et ça me porte. Ensuite, je pose la question, qu'est-ce que j'apprends au sujet de notre Père Céleste et de son plan pour mon bonheur quand je lis un texte? Mais dans tout, vous allez trouver. Même dans les textes où il est dit « Malheur à vous, pharisiens, hypocrites !» Même là-dedans, on peut trouver quelque chose qui nous apprend au sujet du plan de notre Père Céleste, au sujet de notre bonheur. On apprend partout, dans tous les textes. Ensuite, qu'est-ce que j'apprends à propos de Jésus-Christ et de son expiation? On apprend toujours quelque chose au sujet de Jésus-Christ et de son expiation, même quand vous lisez Jonas dans le ventre de la baleine, ou n'importe quelle histoire de Moïse ou d'Isaïe, on apprend toujours quelque chose sur la valeur de l'expiation que Jésus-Christ a accomplie pour nous. Ensuite, qu'est-ce que le Seigneur veut que j'apprenne de ce passage? Posez-vous cette question plutôt que de lire, je lis un verset, puis voilà, j'ai fait ma BA. Faire attention maintenant avec les PKZ, les RPR, les machins, on ne sait plus où on en est. Quelles sont les pensées et les sentiments inspirés que je reçois pendant ma lecture? Qu'est-ce que ça crée comme sentiment à l'intérieur de moi? Y a-t-il quelque chose dans ce passage qui peut m'aider à résoudre une difficulté que je rencontre actuellement? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce passage, dans le contexte, qui peut m'aider? Qu'est-ce que j'apprends qui m'aidera dans ma vie jour après jour? Est-ce que vous vous posez ces questions quand vous lisez? Ou est-ce que vous lisez simplement, voilà, ben, j'ai lu, j'ai fait ma BA? Vous voyez, devenir autonome, ça s'apprend. On va lire dans Doctrine et Alliance, c'est dans le livre de Mormon, section 11, verset 21, ne cherchez pas à annoncer ma parole. Non, ne cherche pas à annoncer ma parole, mais cherche tout d'abord à obtenir ma parole. Et alors ta langue sera déliée, puis, si tu le désires, tu auras mon esprit et ma parole. Oui, la puissance de Dieu pour convaincre les hommes. Cherchez à obtenir la parole, à l'intégrer. On va lire Alma, chapitre 17, verset 2-3. Or les fils de Mosia étaient avec Alma au moment où l'ange lui apparut pour la première fois. C'est pourquoi Alma se réjouit extrêmement de voir ses frères, et ce qui ajouta encore à sa joie, c'est qu'ils étaient toujours ses frères dans le Seigneur. Oui, et ils étaient devenus forts dans la connaissance de la vérité, car ils étaient des hommes d'une saine intelligence, et ils avaient sondé diligemment les Écritures afin de connaître la parole de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Ils s'étaient beaucoup livrés à la prière et au jeûne, c'est pourquoi ils avaient l'esprit de prophétie et l'esprit de révélation, et lorsqu'ils enseignaient, ils enseignaient avec une puissance et une autorité venant de Dieu. Les Mormons, je ne sais même pas ce qui est écrit dans le livre des Mormons. Ça, c'est important à mettre en pratique, ce que les frères d'Alma ont fait là, ce qu'ils ont vécu là. Moi, ça m'inspire. Je me dis, attends, c'est formidable, ça, c'est quelque chose qui est pour moi. C'est quelque chose que je peux apprendre, je peux tirer une leçon de cela. Vous voyez, devenir autonome, ça s'apprend. Mes frères et sœurs, dans mon esprit, il est absolument clair que les principes et les processus de l'enseignement comme de l'apprentissage, de n'importe quoi, sont absolument, essentiellement spirituels. C'est des principes spirituels. Quand je vois ce qui vient, quand je vois pas par l'esprit prophétie, simplement par anticipation. Le monde qui est de plus en plus confus. Quand je vois l'état chaotique dans lequel nous sommes en train de vivre dans ce pauvre monde et que nous allons devoir encore vivre, encore hier soir, ils ont fait sauter, ils ont tué 6 personnes là-bas à Londres. 7 maintenant. Mon Dieu. Et ils disent connaître Dieu. Je crois qu'il sera essentiel que chacun de nous, nous ayons accru cette capacité de chercher la connaissance de Dieu, la connaissance de Dieu par la foi, personnellement. Notre responsabilité personnelle est d'apprendre par la foi et de mettre en pratique les vérités spirituelles que nous comprenons par la foi, inspirées par le Saint-Esprit. C'est une responsabilité de plus en plus importante dans un monde fou, dans ce monde fou dans lequel nous vivons et que nous allons devoir vivre. Parce que ça ne va pas aller en s'arrangeant. Alors, ce que nous apprenons est la manière dont nous apprenons et le moment où nous apprenons. Tout ça, c'est influencé par les 5 ministères, c'est vrai. C'est vrai. Mais notre connaissance de Dieu ne doit pas dépendre des 5 ministères. Ces ministères nous apportent la connaissance pour nous conduire à la stature parfaite de Jésus-Christ, voilà ce qui est écrit dans Éphésiens, mais un bon enseignant va vous toujours vous conduire à chercher vous-même. Qu'est-ce que faisait Jésus ? Exactement cela. Si un enseignant ne fait pas ça, c'est un mauvais enseignement. S'il dit « c'est moi qui parle, c'est moi qui sais, taisez-vous au nom de Jésus, c'est moi qui raison », c'est faux. Nous avons le plein évangile, il n'y a rien d'autre que ce que nous croyons, c'est faux. N'écoutez pas ça. Alors bon, nous sommes bénis par les enseignements des anciens, c'est-à-dire de ceux qui nous ont précédés, c'est très utile, mais je crois qu'il est devenu important d'apprendre au travers de l'inspiration par soi-même. Par soi-même, vous, chacun d'entre vous. Si nous apprenons à apprendre, Dieu pourra nous inspirer et nous protéger contre les assauts du sophisme actuel. Qu'est-ce que c'est le sophisme ? Eh bien, je vais vous le dire. Le sophisme, c'est le raisonnement qui n'est logiquement correct qu'en apparence. C'est les raisonnements qui sont conçus avec l'intention d'induire en erreur. Je vous dis ça à cause de quelqu'un. J'ai vu des vidéos, j'ai regardé ça sur YouTube, et sur cette vidéo, sur bien 2 ou 3 de ces vidéos, il y a un de mes amis, enfin un ami, oui, qui est en train de se faire séduire par un prétendu théologien catholique, je dis bien prétendu, théologien catholique. Les raisonnements de cet homme paraissent si logiques, mais c'est du sophisme. C'est du sophisme à l'état pur. Et notre pauvre ami tombe dedans. Ce que ce prétendu théologien catholique apporte, c'est enrobé d'une apparence d'amour dégoulinant. Ah oui, il a l'air d'avoir beaucoup plus d'amour que moi, ça c'est sûr. Le sophisme est très répandu en ce 21e siècle, mais nous avons une parole de Jésus, c'est celle-là, et quiconque garde précieusement ma parole ne sera pas séduit. Matthieu 1, 37. Si vous faites ce que je vous dis avec diligence, vous verrez s'accomplir dans votre vie cette promesse du Seigneur. Absolument. Si quelqu'un a soif, Jésus dit, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Lui, c'est pas la Bible. Lui, c'est pas le livre de Mormon. Lui, c'est pas les livres d'Osborne, lui, c'est pas les livres de Branham, lui, c'est une personne qui peut parler, qui écoute. Tous les autres, toutes ces autres choses sont des témoignages de qui il est. Celui qui croit en moi, Jésus dit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean 7, 37, 38. Alors mes frères et sœurs, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, j'en suis conscient, mais devenir autonome est la chose la plus chouette que j'ai fait dans ma vie. C'est l'une des meilleures choses que j'ai faites. Ça m'a béni et ça a permis à des milliers de personnes d'être bénies de par le monde. Vraiment. Autonome, ça ne signifie pas indépendant, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça ne signifie pas indépendant. Autonome vient de deux mots grecs. Premièrement, auto, qui signifie soi-même. Une auto mobile. C'est-à-dire, elle se déplace elle-même. Il n'y a pas besoin de chevaux. Ni de peu. Auto, ça signifie soi-même. Et nomos, qui signifie loi. Voilà ce que c'est l'autonomie. Un autonome chrétien, il choisit lui-même de suivre Jésus-Christ et de marcher dans l'Église de Jésus-Christ. Il est autonome, mais avant d'être autonome, il est d'abord disciple de Jésus-Christ. C'est-à-dire soumis de cœur à tout ce que Jésus dit. Or, Jésus dit qu'il construit son Église. Ne pas être dans son Église, c'est être non pas autonome, mais c'est être contestataire. Elle n'est pas construite pour les chiens, l'Église, elle est construite pour les siens. Vous voyez là. Jésus a établi dans son Église des ministères et on a vite fait de reconnaître si c'est un ministère qui vient de Dieu ou pas. Si on a le Saint-Esprit avec soi, évidemment. Et il a donné des lois, Jésus-Christ, incontournables pour vivre dans son Église. Incontournable. Un disciple observe tout cela, c'est absolument évident, et en plus, il étudie personnellement les Écritures, et il a une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Un disciple autonome, il est ce qui est écrit. Et ça lui donne de l'autonomie. Mais s'il n'est pas ce qui est écrit, il s'imagine qu'il est disciple, mais il ne l'est pas. L'autre jour, il y a un frère qui me téléphone et me dit « Oh, j'ai un enseignement formidable sur la vie de disciple. Je veux venir enseigner dans ton église. » Je dis « Oui, d'accord, mais à condition que tu prennes comme verset de départ Luc 14, 33. Oh, »« Ouais, ouais, pas de problème. » Plus de nouvelles depuis. Pourquoi ? Parce que Luc 14, 33 dit « Quiconque ne renonce pas à tous ses biens ne peut pas être mon disciple. » Il faut commencer par là. Il veut être disciple. Vous voyez, un disciple, il est ce qui est écrit. Et ça, ça lui donne l'autonomie, c'est-à-dire le pouvoir de parcourir son chemin avec ce qu'il a en lui-même et ce qu'il est lui-même. Comme une voiture qui peut parcourir une certaine distance sans avoir besoin de remettre du carburant. Un disciple autonome, il est conscient de ses limites, il est autonome et il reviendra régulièrement faire le plein de carburant au sein de l'Église de Jésus-Christ. Il n'est pas indépendant de l'Église. Et s'il l'est, c'est qu'il n'est pas autonome, mais il est contestataire. C'est très différent. C'est vrai qu'on peut contester beaucoup de choses dans toutes sortes d'églises. Mais c'est devenu une manie, je trouve, maintenant. L'apôtre Pierre avait certainement un caractère terrible. Ça n'est pas de rigolo. L'apôtre Paul, encore pire. Des espèces de chrétiens efféminés d'aujourd'hui. Oh, je ne sens pas d'amour avec l'apôtre Paul, oh, si vous saviez. Il y en avait, hein, qui contestaient l'apôtre Paul. Pauvre bougre. C'est pas ça qu'on doit regarder. C'est Jésus dans Paul. C'est Jésus dans Pierre. C'est Jésus dans le serviteur de Dieu. C'est Jésus dans le frère. C'est Jésus dans la sœur. Pas la chair. Nous ne connaissons personne selon la chair. Ah, ça c'est un verset biblique qu'on connaît, mais ça veut dire quoi? Pour ces gens qui disent, oh, l'apôtre Paul, si vous saviez ce qu'il était, autoritaire, insupportable. Ah non, moi je ne pouvais pas, non, d'abord, non, c'était pas conduit par Saint-Esprit, c'était conduit par Paul. Mais vous dites quoi? Non, c'est insupportable. Non, j'ai quitté cet endroit, ce n'était pas possible. Oh, je suis allé dans un autre, c'était Pierre. Ah, ce gueulard de Pierre, oh là là. Ben, c'est un peu ça, les chrétiens aujourd'hui, une bande de tapes, pardon. Voilà, vous m'avez compris. Frères et sœurs, il faut l'équilibre. Il faut l'équilibre et il faut l'équilibre. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur de bénir ce que j'ai dit et de permettre que ceux qui doivent comprendre le comprennent. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Les musiciens, approchez-vous.